Il est beau de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Dans la parole, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on a confessé nos péchés, lorsqu'on a fait tomber les masques, la gloire de Dieu peut revenir en nous par son esprit. Et nous disons que Dieu est présent dans nos vies, que la gloire de Dieu est dans nos vies par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes ensemble, nous représentons le temple du Saint-Esprit, différentes facettes de la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous êtes précieux, chacun est précieux aux yeux de Dieu, mais aux yeux des autres frères et sœurs dans la foi. Chacun reflète quelque chose de la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, tu reflètes quelque chose de la gloire de Dieu. Et ensemble, nous reflétons un peu plus de la gloire de Dieu. Alors voilà, maintenant nous allons entendre la parole, ouvrir notre cœur à cette parole qui guide nos pas, qui dirige nos vies. Et nous croyons que c'est une parole de vie qui vivifie notre être intérieur et nous permet de développer cette gloire, de laisser cette gloire de Dieu se développer en nous. On va prier. Bien, notre Père, notre Seigneur, oui, nous réjouissons d'entendre ta parole et nous voulons ouvrir notre cœur à cette parole, la recevoir, mais ne pas simplement la recevoir pour augmenter notre savoir, mais qu'elle devienne en nous une connaissance plus grande de Dieu, de qui tu es. Passez cela à la vie éternelle, c'est que l'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et Seigneur, j'aimerais t'apporter aussi notre frère Claude qui va nous apporter ta parole. Je demande Seigneur que tu lui donnes tes paroles, que tu l'inspires encore dans ce qu'il va nous dire et que tu le gardes, lui et sa famille, dans le nom de Jésus. Amen.
Je vous salue les uns et les autres, content d'être avec vous. Merci Dominique pour les fleurs de chaque dimanche. Vous savez comment s'appelle cette fleur? Cette plante? Ah oui, c'est pas une étoile de Noël? Ah, pardon, je parle simplement, mais c'est vrai que ça a un nom compliqué aussi. Une étoile de Noël. Où est-ce que l'étoile de Noël a conduit les mages? Pas à Bethléem. À Jérusalem. Et où à Jérusalem? Chez Hérode. Ils se sont plantés les mages. L'étoile a été mal interprétée. Vous voyez, pour le cadeau de Noël, nos cœurs cherchent mal. Et il a fallu que des gens ouvrent le livre pour, à l'éclairage du livre prophétique, ils aillent à Bethléem. Nous cherchons mal. Nous attendons mal aussi. Et c'est étrange peut-être d'aborder un sujet comme un cœur qui plaît à Dieu au quatrième dimanche de l'Avent, non? Normalement, au quatrième dimanche de l'Avent, on parle de... Jésus, non? Du cadeau. Et maintenant, j'ai choisi de ne pas parler d'abord du cadeau, mais d'abord de ceux qui reçoivent. Vous me permettez? C'est ce que j'ai eu à cœur principalement de vous apporter, de nous apporter ce matin. Réflexion sur ce qui, au fond, est recherché par les humains dans leur attente. Dans 2 jours, nous fêtons diversement dans nos familles. Je suis sûr que vous avez déjà pensé à qu'est-ce qu'on pourrait manger, qu'est-ce qu'on pourrait donner à qui, et que vous savez déjà à moitié ce que vous recevrez vous. En général, on ne manque de rien dans cette période. C'est vrai, on a même trop. Tellement trop que ce n'est pas nécessairement l'une des périodes les plus faciles pour ceux qui ont tendance à prendre un peu d'embonpoint. C'est pas vrai? Et j'aimerais juste, en tant que berger, pasteur, vous vous rendez bien compte qu'on ne passe pas à côté d'un essentiel. Il y a l'un des héritages que j'ai reçus de mon père et de ma mère, parmi les plus précieux, qui consiste d'avoir entendu mon père dire « On ne le mérite pas. » Béni soit son cœur, parce qu'il sait recevoir un cadeau. Et si on retient qu'une seule chose, c'est que dans les jours qui viennent, vous les jeunes, vous les aînés, et vous entre deux, vous puissiez à Noël dire cette phrase. Peu importe avec qui vous fêtez, j'avais besoin d'un sauveur. Alors le cadeau prend un sens. Sinon, c'est qu'un cadeau ajouté à 36 000 cadeaux. Vous savez, les Suisses, nous pouvons fêter Noël sans Jésus. On le fait, en fait. Vous évacuez Jésus, on fête encore, hein ? Et on sait faire. Consommer. Ajouter. Mais ça ne comble pas. Enfin, je dis les Suisses, c'est universel, vous savez. Nous allons voir une petite séquence. J'ai demandé si on pouvait la voir. On va éteindre pour que vous voyez bien. Elle est courte, méfiez-vous, ça met en scène des petites filles qui sont briefées pour un film. Vous y êtes ? Écoutez bien ce qui se passe et nous allons réfléchir au masque, à ce qui est recherché au fond. Au fond, les petites filles sont sympathiques, elles nous disent franc-jeu ce qui se passe en elles. Elles ont encore l'avantage de la candeur et de la vérité. Plus tard, on va apprendre à dissimuler ça, d'accord ? Les adultes et les petites filles, c'est à peu près la même chose, sauf que plus tard, on dissimule la vérité. Vous allez voir.
Assieds-toi confortable, à l'aise. Alors, déjà, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Emma.
Je m'appelle Jenna.
Je m'appelle Sacha et j'ai 8 ans.
Alors, je vais te raconter la petite histoire. Dans le film, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Louis. C'est la petite fille la plus gentille du monde. Et en fait, elle va rencontrer une autre petite fille qui va devenir son amie, qui elle est très très méchante. Et nous, on cherche une actrice pour faire la petite fille gentille et une actrice pour faire la petite fille méchante. Toi, tu préférerais quel rôle ?
Je suis pas méchante, moi. Gentille.
La fille gentille.
Gentille.
La petite fille gentille.
La petite fille gentille.
Alors, comment tu vois la petite fille méchante ?
Elle s'habille mal.
Et la petite fille gentille, tu l'imagines comment ?
Un petit débardeur court aussi rose.
Ouais.
Une robe.
Quelle couleur ?
Rose fuchsia comme
ah,
moi.
Ah, voilà. Ça,
avec
je
des fleurs.
Et un collier rose.
Que moi.
Et donc, si je te dis que dans l'histoire, la petite fille gentille, elle n'est pas belle du tout.
Elle n'est pas belle du tout.
La petite fille méchante, c'est celle la plus belle. Tu aimerais toujours faire le rôle de la petite fille gentille, qui n'est pas belle ?
Non.
Non, j'ai choix. Mais quand j'étais plutôt en CE2, j'étais pas trop gentille quand même.
La petite fille méchante.
Pourquoi ?
Parce que la petite fille gentille... Tu viens de dire, là, eh ben, qu'elle avait les cheveux noirs avec une queue de cheval, elle est pas belle et tout
et tout. Et t'as pas envie de jouer le rôle d'une petite fille pas belle ? C'est un rôle, hein, c'est pas la vérité. C'est juste un rôle.
Non. La petite fille méchante.
La petite fille méchante. Mais c'est ça, la petite fille méchante.
Tu préfères faire la petite fille méchante ? Elle est très méchante, hein. Vraiment. Oui ?
C'est pas parce que je suis gentille que je veux faire la petite fille méchante. Hein.
Ben oui, on sait. Hein. Faut juste que tu me dises ce que tu préfères.
Méchante.
Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que ce réflexe, ce mauvais choix au fond, change avec l'âge ? Ou est-ce que ce qui change avec l'âge, c'est juste l'habileté à le cacher ? Le masque. Hein ? Le rôle de gentil comme moi, a dit une petite fille, change quand gentil n'est plus beau et n'est plus séduisant. Maintenant, c'est des petites filles. Je ne sais pas comment les petits garçons auraient agi si le gentil était faible. On aurait peut-être joué sur la force, hein, chez les garçons. Je ne sais pas. Mais on préfère fort et méchant que gentil et faible. On préfère gentil et belle à gentil et méchante. Oui. Vous avez compris. Vous avez compris ? Ben oui, oui, oui. Ah oui, le cerveau, là, ça fonctionne. Mal. Avec nous autres humains, voyez-vous, il en va de même. Nous allons voir quelques passages bibliques qui sont connus et nous arriverons après à une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un cœur qui plaît à Dieu. Hein ? Le premier passage que nous avons, c'est une parole qui est donnée à la jeune Marie de Nazareth. Un enfant lui sera donné. Et ce cadeau dans cet enfant de Marie de Nazareth avec Joseph de Bethléem, il est dit à Marie de Nazareth, tu lui donneras le nom de Dieu sauf Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, c'est-à-dire le roi David, la descendance qui devait rester sur le trône. Son père, descendant de David, souvenez-vous. Hein ? Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, c'est-à-dire cette famille juive particulière. Il régnera pour toujours sur la famille du peuple choisi de Dieu pour être porte-parole parmi les nations, et son règne n'aura pas de fin. C'est un petit cadeau, ça. Hein, c'est juste un cadeau un peu incroyable. Et j'imagine bien que dans le cerveau de Marie, croyante, attendante, disponible, comme très peu de personnes l'ont été sur la surface de la terre au plan de Dieu, eh bien, il y a un tas de choses qui s'est passé. Voilà le cadeau. Il y a également quelque chose d'autre que l'on va lire dans l'Évangile selon Luc, rappeler plutôt ici une parole adressée par Siméon à Marie aussi. Siméon, nous l'avons déjà médité il y a 2 semaines, je me souviens quand Valérie a prêché dessus. Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël. C'est la partie sombre de ce qu'elle a essayé d'expliquer, je me souviens de son explication, une occasion de chute et de relèvement. Jésus, cadeau de Dieu, sera une occasion de chute et une occasion de relèvement, pas pour les mêmes personnes. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Et on revient aux pensées. Vous vous souvenez du sujet que j'ai, c'est un cœur qui plaît à Dieu. Ainsi seront dévoilés par Jésus le fond des pensées de bien des gens, et ça fera un tri, une crise, une séparation entre des gens qui prennent l'option de oui pour Jésus le Messie, sauveur d'Israël et sauveur du monde, et non pas Jésus le Messie, sauveur d'Israël et sauveur du monde. Et un tri se fera devant ce drôle de roi. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilés. Donc, quand Jésus vient, il y a un rôle de révélation de quelque chose. De révélation de quoi ? D'un cœur. Vous comprenez ? Quand Jésus vient, et c'est le trésor de Villars. Vous en connaissez un autre qui nous lie tous ? J'en connais pas un autre. Ainsi, quand Jésus vient, il a rôle de révélation, de choix, de crise, de séparation. Certains prendront l'option pour, certains prendront l'option contre. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Vous vous souvenez avec les jeunes demoiselles de tout à l'heure dans le film, il y a des pensées cachées qui ont été révélées. Et ils ont eu la chance, ils l'ont dit. Ouais, c'est rare, hein, que des adultes comme moi nous disions des choses comme ça. Au fond, qu'est-ce que je cherche ? La réponse de Dieu est un cadeau pour ceux qui cherchent de la bonne manière. Qu'est-ce que signifie chercher de la bonne manière ? Qu'est-ce que c'est qu'un cœur qui plaît à Dieu ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Quant à toi, dit Siméon dans sa prophétie à Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Même Marie sera surprise. Parce qu'elle attendait le Messie d'Israël, hein, et elle n'imaginait pas du tout la manière dont ça se passerait. On entend parler de massacre ces temps dans nos journaux, non ? Ça ne vous inquiète pas ? Moi, ça, comme vous, ça nous culbute. Et on s'est dit, on ne va pas faire religieux à côté de la réalité. Mais sachez que la belle histoire de la crèche à Bethléem avait comme actualité un massacre, ce qu'on appelle le massacre des innocents à Bethléem. C'est aussi quelqu'un qui a dit, laisse-moi aussi, je veux aller adorer le Messie qui vient de naître et mon œil. Il a voulu surtout éliminer tous les concurrents à sa manière de voir la force. Il n'avait pas besoin de ce cadeau, il voulait détruire ce cadeau. Ainsi, la faiblesse même de la naissance de Jésus, de la venue de Jésus, de la vie de Jésus, de la crèche, mais aussi de tout l'enseignement de Jésus et du don de sa vie, est un révélateur des esprits. C'est un révélateur des esprits. Mais de quel esprit ? Qu'est-ce que c'est la condition qui fait que je m'ouvre au salut ou pas ? Ou que je sois indifférent et que j'ajoute juste Jésus parmi les 36 000 cadeaux, à peu près indifféremment, vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est cette qualité de cœur qui est indispensable, qui fait que certains dans la judaïté, certains dans le paganisme d'où nous sommes, nous en majorité issus, moi aussi, hein, des Helvètes, des Gaulois et tous les autres Goths qui sont venus. Hein ? Qu'est-ce qui fait que certains cœurs s'y ouvrent et certains s'y ferment ? Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens et aussi des nôtres. Je reviendrai sur une conclusion tout à l'heure. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que les bergers qui les premiers ont reçu la révélation de Noël, qu'on trouve par exemple dans Luc 12, où ils ont entendu la multitude des anges, eux l'ont entendu. C'est les bergers, vous savez quoi ? C'est les parias de la société juive. C'était des pauvres types, ils ne savaient certainement pas lire et ils ont entendu la chorale de Dieu qui disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, shalom pour tous ses bien-aimés ». Et c'est à eux que fut révélé par l'ange ce contenu extraordinaire. Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer l'évangile, une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Et il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Messie Seigneur. Et voici le signe. Alors là, c'est là que ça commence à culbuter. Voici le signe qui vous est donné. Vous le trouverez, un nouveau-né emmailloté, c'est ce qu'on faisait en général à l'époque, et couché dans une mangeoire. Aujourd'hui, ça nous fait coucher dans un truc à bestiaux. Hein ? Pas mal pour un roi. Et ils sont allés, eux, ils ne se sont pas trompés, comme les mages et comme bien des gens. Le fait que nos attentes elles-mêmes d'un sauveur sont perverties Un cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui sait dire « Eh bien, moi, j'ai besoin d'un sauveur. » Moi. Voici le cœur qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre dans le cœur qui plaît à Dieu? Sinon, cette phrase « Moi, j'ai besoin d'une lumière dans ma vie. J'ai besoin d'une étoile qui me conduit. J'ai besoin d'être sauvé au niveau, à tous les niveaux. Moi, j'ai besoin. Je suis en manque. Dieu n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin de Dieu. » C'est comme ça, le cœur qui plaît à Dieu. Et à Noël, il faut le rappeler. Mon papa n'était pas un enfant de cœur. Vous savez ce que ça veut dire? Comme moi, lui aussi, il a eu un tas de choses à se faire pardonner. Mais il y en a un qui peut pardonner. Et une condition pour le pardon, c'est « Je ne l'ai pas mérité. C'est un cadeau de Dieu. Le besoin de Dieu. » La béatitude des mains vides. Vous vous souvenez, ici, quand on a vu les béatitudes, on a dit cette drôle de béatitude qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais qu'on a appelé comme ça, « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Ceux qui sont trop pleins d'eux-mêmes ne peuvent pas laisser passer la lumière. Ceux qui courent après d'autres cadeaux ne peuvent pas recevoir ce cadeau de Noël. Ils ont entendu peut-être Noël, mais ils ne peuvent pas le fêter, puisque ça n'a aucune valeur pour l'endroit de leur vie où ce cadeau peut être reçu. L'endroit de leur vie où ce cadeau peut être reçu. Le Dieu vivant intervient pour le salut d'une manière voilée et fragile, et il le fait exprès. Pour révéler les pensées des cœurs, les manques. C'est pour ça que quand il remet en route le nouvel Israël, des gens venant de partout, de Décapole, de Judée, des gens insatisfaits qui étaient en manque, il les enseigne sur la montagne et il relance le peuple de Dieu. À partir du manque. À partir du manque. On retient ça? Quelle est la qualité d'un cœur qui plaît à Dieu? Ce sont des gens qui sont en besoin de salut. Il n'y a pas une autre qualité qui tienne. Ni le pédigré, ni l'origine des globules rouges ou blancs, ni les qualités intellectuelles. Mais il y a ceci de fondamental. Seigneur, c'est mon sauveur que je fête aujourd'hui. Dites-le avec vos mots le plus simple possible, là où vous pouvez. Vous donnerez le plus grand héritage que vous pouvez imaginer à vos voisins, à vos Père ou à vos enfants ou petits-enfants, ou dites-le, trouvez vos mots, mais dites-le pour que Noël reste Noël. Nous avons vu ce court métrage Facebook et nous avons compris, nous sommes revenus sur le passage de Luc 2 que nous avions déjà médité. Je vous lis quelque chose, et ce n'est pas étonnant, nous l'avons vu il y a 3 semaines dans Jean chapitre 1, je vous lis quelque chose pour que ça trouve résonance dans vos oreilles, pour souligner ce que nous voulons souligner aujourd'hui. C'est Jean chapitre 3, versets 19 à 21, ce n'est pas marqué là, je vais simplement le lire. « La lumière étant venue dans le monde. » Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Autrement dit, laissez-moi vous dire, pas les œuvres d'après, c'est leur manière d'être au fond d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas en manque de Dieu, en manque de lumière, en manque de sauveur. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, du verbe haïr, et ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Or, devant une crèche, nos œuvres sont démasquées. C'est si insignifiant, une crèche, une croix, c'est si insignifiant la vulnérabilité de Jésus, c'est si insignifiant que les esprits se révèlent. « Celui, dit Jean, qui fait la vérité, vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Pourquoi les cœurs peuvent être mauvais ? Notre cœur à tous ? Parce qu'ils sont désorientés, parce qu'on a déprogrammé, parce qu'on a cherché, comme les jeunes filles, à chercher la séduction plutôt que la bonté, parce qu'on a cherché comme des garçons, typiquement, et pardon, je ne veux pas être sexiste, mais il y a encore un petit peu des différences, hein. Le garçon, parce qu'il va chercher la force et en imposer plutôt que la bonté. Nous cherchons mal, et le fait de le reconnaître, Seigneur, je cherche mal, mais je suis prêt à accepter ton cadeau et à me redéfinir ce dont j'ai besoin comme un cadeau de grâce de Dieu, eh bien je m'y ouvre. Et ça c'est vrai pour les juifs comme pour les non-juifs, aujourd'hui comme dans le temps, la révélation des cœurs. Jésus, un signe de contradiction qui révèle les pensées cachées de bien des gens. Alors, pas étonnant qu'on ne va pas contester, on va contester doucement certaines étoiles pour cette fête de Noël. J'ai pas loin de chez moi un EMS avec une grande étoile. Je me dis combien de temps ils vont encore leur permettre de le laisser là-dessus. On va planquer les crèches parce qu'on veut, on veut mettre quoi comme symbole finalement ? La lumière, parce que c'est sombre, de la nourriture, des cadeaux bien emballés, mais... Quelle nature du cadeau, quelle nature de la lumière, ça c'est un débat de société que nous aurons encore largement ces temps. Donc la réponse de Dieu en Jésus révèle la pensée des cœurs, ça fait du tri à la venue de Jésus qui déjà avait été prophétisé. Je vous lis quelque chose d'Ésaïe juste pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas une surprise. Ce mode de révélation du Messie dans la fragilité et la faiblesse est dans le plan de Dieu. Ésaïe 53, versets 1 à 3 et versets 10 à 12, je vous en fais la lecture. Qui donc a cru ce que nous avons entendu dire ? Qui a cru ? Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé ? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance telle pour que nous le remarquions, si apparence telle que nous le recherchions. Il était méprisé. Laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier à la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. C'est ça la révélation que fait la fragilité de la bonne nouvelle. Un petit peu plus loin, verset 10 de 53, « Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra, lui, une descendance, le Messie. » Il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Ayant payé de sa personne, le Messie, le roi qui vient, il verra une descendance, il sera comblé de jours. Sitôt connu, juste, il dispensera lui-même la justice. Lui, mon serviteur, dit le Seigneur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors, verset 12, je lui taillerai sa part dans les foules. Au serviteur de l'Éternel. Et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules et que pour les pécheurs il vient s'interposer. C'est juste pour vous montrer. Qui a cru ce que nous avons vu ? C'est Ésaïe qui déjà, de sa lointaine distance, voyait cela. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est nos cœurs doivent être des cœurs en forme de manque pour recevoir le cadeau de Dieu. La seconde chose que j'aimerais souligner, c'est que ces cœurs en forme de manque sont les seuls cœurs, au fond, capables d'aimer. Vous ne pouvez pas aimer si vous avez une autre définition de la dette de reconnaissance pour Dieu. Si on est trop rempli de nous-mêmes avec nos définitions du bonheur, quand je pourrais séduire, quand je saurais imposer ma force à tous les autres, quand j'aurais l'accumulation de tous les biens et la sécurité dans ma cave ou mon grenier ou mon cellier ou ma banque. Vous comprenez ? Quand on se trompe de recherche de fond de cœur, on n'est plus capable d'aimer puisque nous adorons d'autres idoles. Mais ici, Avoir un cœur qui est en manque de salut est une attente particulière qui nous ouvre à l'amour. J'aimerais vous lire une histoire, on raconte souvent des histoires, c'est une histoire que l'on retrouvera encore ces prochaines semaines dans le cadre de l'Ecclésiaste. Il était une fois, ça commence comme ça, et ce n'est pas dans l'Écriture, une ville dont le prince était d'une sagesse peu ordinaire, ça arrive. Une sagesse peu ordinaire marquée par la bienveillance. Au lieu d'ériger des murailles autour de sa cité, comme c'était l'habitude de son temps, le roi fit allumer un immense feu sur la grande place de l'église. Pendant les froides journées d'hiver, ce feu réchauffait les habitants loin à la ronde de la cité. Vous y êtes ? Pendant les nuits, il illuminait les chemins et les chaumières, ce feu. Le prince avait dit, « Toutes celles et tous ceux qui sont éclairés par la lumière de ce feu, toutes celles et tous ceux qui bénéficient de sa chaleur, seront considérés comme les sujets de ma ville. » C'est généreux, non ? Autrement dit, là, il n'y a pas d'exclusion. Mais comme le feu se voyait de loin, vous imaginez, beaucoup de ceux et de celles qui vivaient dans l'obscurité, dans le froid, au loin, étaient attirés par sa lueur et par sa chaleur. Ils s'avancèrent de plus en plus nombreux vers la ville. C'est alors que les habitants de la ville déclarèrent que leur prince, si sage, avait en fait été comme fou. Vous imaginez pas ? Tout d'un coup, vous avez tellement d'étrangers, non ? Ils l'enfermèrent dans le clocher, le roi. Et ils nommèrent à sa place un roi qui leur promit de faire de leur cité une ville semblable aux autres, c'est-à-dire avec une muraille. Ainsi fit-il édifier une muraille tout autour de la ville pour que seuls ceux qui se trouveraient dans l'enceinte des murs soient considérés comme ses sujets. Beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie fut dépensé pour construire des fortifications. Elle n'était jamais assez haute pour empêcher la lumière du feu et sa chaleur de rayonner alentour. Il fallait les faire monter toujours plus haut et chasser au dehors ceux qui étaient venus d'ailleurs, mais aussi, et c'est assez typique, ceux qui n'étaient pas assez forts pour participer à la construction de la muraille, les trop vieux et ces jeunes qui faisaient trop de bruit. Mais paradoxalement, plus il y avait d'exclus, plus les actions de la ville prenaient de la valeur. Au bout du compte, une bonne partie de la richesse des habitants passa à la construction de ces hauts murs. Un jour, alors que les ouvriers harassés venaient de poser la dernière pierre d'une enceinte suffisamment haute pour qu'on ne puisse ni apercevoir le feu, ni parvenir à escalader la muraille, la pluie se met à tomber. Ça y est, tout le monde a déjà compris. Non, ceux qui ont un cerveau qui marche vite. Un vrai déluge ! Or, la muraille a été si bien construite, elle est si hermétique que le niveau de l'eau commence à monter dangereusement. Les habitants se réfugient sur les toits de leur maison. Pour un temps, le feu résiste et leur tient suffisamment chaud à l'intérieur. L'eau n'arrête pas de tomber. Et orage après averse, elle envahit la ville. Bientôt, les flammes de feu vacillent. L'homme sage qui avait été leur prince leur crie du haut de la tour où il était toujours enfermé, et il leur dit « Allez vite, faire des brèches dans le mur d'enceinte. Faites tomber les murailles et vous serez sauvés. » Ils reconnaissaient la voie de la sagesse et ne tardèrent pas à suivre ce conseil. Dès que les premières brèches sont faites, l'eau se met à ruisseler à l'extérieur de la ville, les rues réapparaissent et les flammes de feu reprennent leur souffle. Lorsque la pluie cessa de tomber, l'homme sage fut rétabli comme prince de la ville et le reste des murs fut abattu. Le prince dit alors à ses sujets « Bannissez la peur du milieu de vous. » Bannissez la peur du milieu de vous. Plutôt que de vous ruiner et de perdre votre force à édifier des murailles qui vous emprisonnent, laissez celles et ceux qui en ont besoin prendre une petite flamme de votre grand feu, puis donnez-leur juste quoi allumer à leur tour sur les places de leur ville et de leur village, un feu qui éclaire et qui réchauffe. Peu à peu, les feux s'allument à tous les coins de l'horizon. Et on entendait des murs tomber à gauche et à droite, au nord et au sud. Feu de joie, feu de vie, les cloches des églises carillonnaient pour célébrer ce qui fut appelé l'année de la restauration. Cette année allait vraiment être nouvelle. Parce qu'on avait compris quelque chose. Par la suite, il y eut des rois et des peuples qui oublièrent les événements. Des nouveaux murs et de nouvelles exclusions virent le jour, mais ceux qui savent écouter peuvent toujours entendre, en haut du clocher, tout près de la croix. Vous savez, je ne sais pas si je crois qu'il n'y en a pas de croix là-haut. Non, hein, je ne crois pas. Non, non, il y a une flèche, une pointe. On entend là-haut, vous écouterez en sortant, la voix d'un enfant raconter l'histoire de l'homme sage qui a fait détruire les murailles pour sauver la ville et ses habitants. Peut-être deviendront-ils à leur tour des faiseurs de brèches. Bannissez la peur du milieu de vous. Je crois que Noël, avec cette petite histoire, peut nous apprendre l'essentiel et j'aimerais arriver à cet essentiel de nos cœurs parce que nous voulons encore célébrer l'alliance que fait le Seigneur, né à Bethléem, mais qui a voulu faire alliance avec tous ceux qui sont en manque de communion et en besoin de pardon et en besoin de lumière. Voici la leçon essentielle de cette leçon du quatrième dimanche de l'Avent. C'est avec le psaume 51-19. Vous vous souvenez, la leçon essentielle, c'est « Moi, j'ai besoin d'un sauveur. » C'est Noël. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, pas anéanti. Brisé. Nous sommes créatures à l'image de Dieu, c'est notre dignité, mais nous nous sommes plantés. Nous nous sommes plantés, c'est pour ça que un esprit brisé pour dire « Seigneur, j'ai besoin de ta lumière », c'est ça, l'esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voici le début de toutes les thérapies chrétiennes. Que la bonne disposition intérieure nous délivre de nos idoles et fausses attentes, qu'elle nous aide à dire à nous-mêmes joyeusement et avec courage et force, c'est moi qui ai besoin d'un sauveur. Lorsque j'ai demandé à Edith Balmer, pardon Edith, je ne t'ai pas demandé, ce qui était nécessaire de souligner au quatrième dimanche de l'Avent, elle a répondu, je vends la mèche, je prie pour qu'on reste unis dans une église à la fois une et diverse. Villard. Celui qui sait qu'il a besoin du Sauveur, il est capable d'aimer tout le monde. Amen.
Voilà, je vous propose un temps de silence pour recevoir les paroles de ce message et que chacun de nous puisse prendre pour lui ce que le Seigneur a à lui dire. Puis nous prendrons le repas du Seigneur.